Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Néandertal. Bon, vous allez penser, on a parlé de l'Égypte, là, on remonte vraiment un peu haut. Alors, souvenez-vous que le titre de l'émission est « Où vivrons-nous demain ?» Alors, j'avais déjà dit que la meilleure façon d'imaginer le futur, c'était d'abord d'avoir une bonne connaissance du présent. Et la bonne connaissance du présent ne peut être éclairée que par le passé. Donc, l'exemple de la construction de la Grande Pyramide, me semble-t-il, montrait cette continuité qu'il y avait entre les constructeurs et que les civilisations anciennes bénéficiaient, enfin, je ne sais pas si on peut dire bénéficiaient, avaient en tout cas recevaient un préjugé. Qui était bien sûr assez négatif et justement ces préjugés faisaient que une explication qui apparaît, je pense, assez limpide n'apparaissait pas à nos yeux pour justement cette mauvaise lecture du passé. Donc, pour revenir à ce Néandertal qui vous semble certainement une provocation, on en parle pas mal aujourd'hui parce que ça devient un sujet qui n'est plus un sujet scientifique, mais comme beaucoup de sujets scientifiques, ce sont des débats idéologiques et la préhistoire, comme vous devez le savoir, et depuis, on peut dire, sa création et son invention récente au XIXe siècle, un sujet de polémique parce que elle est lue avec les projections que nous faisons sur notre passé. Alors, autant nous avons des éléments objectifs pour parler des périodes plus récentes ou celles qui ont laissé des grands vestiges, je reviens encore à notre Égypte pharaonique, mais c'est plus complexe quand il s'agit à la fois de civilisations qui ont peu laissé de traces, parce qu'elles ont été détruites, certaines parce qu'il y a des civilisations qui ont moins de témoignages, on peut dire, matériels et pérennes, et là aussi c'est un sujet très important, et puis aussi, en remontant dans le passé, là nous sommes dans le grand mystère des origines de l'humanité et des origines de l'homme. Alors, le sujet de Néandertal est intéressant parce que il y a des projections sur l'histoire et sur le présent actuellement, où on est passé d'une vision qui était, on peut dire, d'un préhumain, un animal qui était assez semblable à nous sur un plan physique, mais assez différent visiblement, mais surtout qui n'était pas du tout l'homme que nous pensons être, c'est-à-dire l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce. Alors, la science a montré aujourd'hui, avec l'analyse de l'ADN, qu'il y avait 2%, donc on a fait tout une polémique autour de ces 2%. 2%, c'est pas grand-chose, et surtout, ces 2%, ça peut constituer des éléments qui ne sont pas importants au niveau de nos physiologies, et puis, il n'est pas du tout certain qu'il s'agit d'un croisement entre Sapiens et Néandertal, mais qu'il peut y avoir antérieurement, parce que c'est deux espèces n'apparaissent pas comme cela, mais qu'il peut y avoir des croisements antérieurs avant que les deux espèces, disons, coexistent et en tout cas existent en tant que telles. Donc tout cela, encore une fois, est fort idéologique et j'écoutais différentes conférences sur le sujet. Il y a donc un paléontologue, Jean-Jacques Hublin. Alors, vous savez, c'est un professeur au Collège de France, un des préhistoriens les plus célèbres de notre pays, même s'il n'est pas extrêmement médiatisé. Mais en tout cas, il a, semble-t-il, sur le Néandertal tel qu'il est présenté aujourd'hui dans les revues ou par le CNRS ou par de nombreux collègues préhistoriens, apparemment il n'est pas d'accord parce que ce qu'il dit, je vous le résume, c'est que au XIXe siècle, il était tout à fait normal et même très bien d'être raciste, puisqu'en fait, autant l'ethnologie que la préhistoire étaient construits justement sur le racisme qui faisait de l'homme blanc occidental un être supérieur, et il fallait donc trouver les preuves des sciences nouvelles pour entériner cela. Donc on est dans un scientisme qui, ne l'oublions pas, est à rebours de la grande tradition, par exemple, religieuse, qui dit Dieu crée l'homme, et ça, on peut le retrouver dans non seulement les religions monothéistes, mais on le retrouve aussi dans d'autres religions où l'égalité des humains comme œuvre du divin ou des divins, même s'ils sont pluriels, n'était pas remise en cause. Donc la question suivante après, et dont nous parlerons, c'est effectivement la question des cultures et comment nous devons justement les regarder. Alors c'est un sujet qui est d'actualité, vous le savez, parce qu'aujourd'hui, il y a notamment les mouvements décoloniaux, les indigénistes, les racisés EES, qui veulent non, qui ne veulent pas justement cette unité de l'humanité, mais veulent la mettre dans des boîtes séparées, et ces boîtes séparées qui ne communiquent pas, et donc qui sont, on peut dire, autistes les unes par rapport aux autres, et interdire le droit d'une communauté culturelle ayant des signes, on peut dire, extérieurs, différents, de pouvoir parler de notre. Donc, on n'aurait pas une culture avec un universalisme, mais on aurait des séries de cultures qui ne peuvent pas communiquer entre elles, et surtout, qui ne peuvent pas être échangées et comprises par des gens qui sont extérieurs à cette culture. Pensez à un phénomène qui, comme vous le savez, se répand à l'université, se répand dans des organismes scientifiques, et cela me semble très dommage. Mais enfin, je ne suis pas là pour donner mon sentiment par rapport à cela. Ce que j'essaie surtout, c'est de ramener à notre sujet principal qui est l'architecture et les cultures de voir comment une instrumentalisation de ce type a pu se créer et comment on peut en sortir, puisque c'est là le sujet. Alors il est vrai que l'architecture est un élément le plus visible, le plus pérenne, et qui détermine les sociétés, puisqu'on parle des grandes sociétés à partir justement de ces traces qui sont les plus visibles, les plus pérennes, que sont les grands bâtiments. Donc nous ne sommes pas hors du sujet, comme vous le voyez. Alors, je voudrais revenir à Néandertal et reprendre le propos de Hublin, Jean-Jacques Hublin, le préhistorien, qui dit que Néandertal aujourd'hui, par rapport à ce racisme donc qui était celui des préhistoriens, et que aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus être raciste et c'est une bonne chose, mais qu'on a une sorte de pensée, on peut dire, d'une charité envers tout ce qui serait supposé être inférieur. Et donc le rôle du on peut dire de l'Africain qui n'est pas qui est hors de la civilisation aujourd'hui serait donné à Néandertal. Il serait donc les nouveaux bannis de la civilisation et injustement laissés de côté et ramenés à un état sauvage, à un état animal. Et donc il faut réhabiliter et lui donner un peu le statut. Je reprends les mots de Hublin. Il dit, on donne à Néandertal le statut du migrant dans la bonne conscience d'aujourd'hui occidentale. Alors évidemment, il s'agit de propos qui sont assez feutrés, puisque le Collège de France n'est pas des lieux de grandes confrontations et de polémiques, mais on comprend bien l'opposition qui existe avec d'autres personnes, et notamment des gens du CNRS, et notamment une dame qui s'appelle Marilène Patoumatis, et qui, elle, est beaucoup plus véhémente dans sa promotion de Néandertal, et qui, évidemment, accuse de racisme toute personne qui mettra en doute que Néandertal est égal à l'humain. Alors, on reconnaît qu'ils ne sont pas égaux, mais comme elle dit, c'est le droit à la différence. Donc, en fait, elle est évidemment contre l'universalisme et elle estime que autant Néandertal que les peuples et les races aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui effectivement n'ont pas les mêmes facultés mentales et tout ça, mais que tout ça c'est de la discrimination et qu'on doit avoir un regard égal par rapport aux différences, c'est-à-dire qu'on ne peut pas hiérarchiser. Alors, c'est un peu inquiétant comme attitude, on peut dire scientifique entre guillemets, puisque justement, et c'est le propos, je pense, que de toute critique et pensée que l'on réflexion, je ne sais pas si on peut employer le mot intellectuel, par rapport à la réalité et aux civilisations, c'est justement la hiérarchisation. Alors la hiérarchisation, c'est un gros mot aujourd'hui, et je vois comme maxime gravé dans le marbre des propos qu'a tenu Jacques Chirac, qui était le défunt président, était, paraît-il, un grand amateur des civilisations, on peut dire, non occidentales, ce qui est très bien, mais il avait fait une maxime, c'était de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les arts, pas plus qu'il y a de hiérarchie dans les peuples. Alors là, ça pose une véritable question, parce que, évidemment, on ne va pas revenir à cette vision qui est celle de l'Occident colonialiste, pas plus que celle du Troisième Reich, qui estimait que le peuple élu, qui, évidemment, le peuple élu, c'était lui-même, il dominait et il devait dominer le monde pour l'éternité, parce qu'il était le seul à produire une civilisation qui était totalement artistique. Alors c'est quelque chose qui est un peu passé sous silence, parce que c'est très dérangeant, cette thèse du Troisième Reich. On préfère éliminer la partie culturelle, parce que, comme vous le savez, le mot culture est un mot magique aujourd'hui, et la culture est censée nous prémunir, nous immuniser contre justement toutes les dérives totalitaires et fascistes. Et donc, il y a un ouvrage qui traite de ce sujet, qui s'appelle L'art de l'éternité, par Éric Michaud, et dont je vous parlerai dans la deuxième partie de cette émission.
strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
J'étais donc en train de vous dire que cet ouvrage, Un art de l'éternité par Éric Bichaud, était un ouvrage, me semble-t-il, très éclairant sur cette période de l'histoire récente et qui montre sous un jour véridique, écrit par un historien, qu'en fait, le Troisième Reich était totalement orienté vers la culture, entre guillemets, et les arts. Bien sûr, différenciant les arts dégénérés, et évidemment qui étaient l'art moderne, le jazz, etc., et l'art tel que le concevait le Troisième Reich. Mais le but d'Hitler, c'était de transformer le Troisième Reich et la société germanique en une œuvre d'art. Et tout était fait pour que cela soit réalisé. Donc le rôle de Goebbels était très important. Et la plupart des dignitaires nazis, et ça c'est quelque chose qui a été oublié, étaient des amateurs d'art et ou des artistes entre guillemets ratés, mais Hitler lui-même se considérait comme un artiste. Donc c'était un projet artistique. Même si ça semble monstrueux et caricatural, mais c'est ainsi. Et en fait, le but du Troisième Reich, c'était de faire vivre justement la race supérieure aryenne dans une sorte de paradis culturel, et pour cela, on vivait dans un monde assez artificiel, fait de grandes manifestations, de cérémonies, de théâtre. On construisait, dit l'historien, un théâtre par semaine, pardon, dans le Troisième Reich. En fait, on vivait dans une sorte de monde hors du réel, avec évidemment derrière la scène les horreurs que l'on sait. Mais il faut sortir de cette naïveté. Mais pour revenir à notre histoire, vous voyez que le rôle de l'art dans l'histoire, et notamment par rapport à Néandertal, et je reviens à mon sujet du départ et à la préhistoire, est un marqueur très important, puisque on dit que Néandertal effectivement était un humanoïde, mais on pense qu'il n'avait pas, il n'y a pas de traces d'art. Alors évidemment, les gens qui sont pour que le Néandertal soit notre migrant, entre guillemets, et il n'y a aucun élément péjoratif dans mon propos, c'est surtout le parallèle que font les autres. Et donc, que ce Néandertal n'avait pas des œuvres d'art qui ont été pérennes, notamment tout ce qui peut être pictural, architectural, etc. Donc, ce n'était que des choses qui étaient périssables, ce qui pourrait être envisagé, et que de ce fait, on a un jugement qui est faux. Mais Cela nous amène à des considérations qui sont effectivement que l'on pourra développer, et j'aimerais dans les émissions suivantes parler de la préhistoire et la vision que l'on a de la préhistoire, et justement pour en revenir à l'architecture et aux villes, vous donner des explications qui sont pas forcément celles qui est dans le droit fil de ce que l'on entend. Et c'est quelque chose qui est important parce que l'explication, notamment des villes, et puis ce qui est notre sujet central, l'architecture et les villes, dépend justement de notre vision de l'histoire. En d'autres termes, si nous sommes dans une vision évolutionniste, nous allons partir de zéro, de Néandertal qui effectivement ne faisait rien, et puis sur un plan d'une architecture et d'art pérenne, et puis petit à petit on va vers le pariétal, et puis on va, c'est l'histoire, on invente les premières maisons, puis on invente les premiers villages, puis on invente les villes, et puis notre civilisation aujourd'hui va être totalement urbaine, et vous avez entendu déjà ce propos ici, c'est ce qui est tenu par de nombreux géographes, par de nombreux hommes politiques aussi, et par des architectes aussi, et des urbanistes, c'est que nous sommes un monde de mégalopole, et que nous allons vivre, nous vivons déjà dans les villes, et nous allons vivre totalement dans les villes. Alors, ça, c'est le sujet évidemment qui est le cœur de cette chronique, et pour cela, vous comprenez bien que je suis obligé de remonter dans la manière dont se fabrique l'histoire et dans la manière dont se fabriquent les idéologies pour comprendre justement ces projections sur le futur et qui sont basées sur un déroulement par paliers successifs et dans une courbe ascendante. Et qui, effectivement, va à l'envers d'une vision qui serait beaucoup plus cyclique et qui montrerait aussi une humanité étale, malgré les différences qui peuvent exister sur un plan technologique, et que la technologie ne fait pas tout, et qu'elle ne modifie pas les humains, elle ne modifie pas, contrairement à ce que l'on croit, profondément les civilisations, et que beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui au nom de la technique dans le côté positif, ou à cause de la technique dans le côté négatif, sont aussi des vains invariants de l'humanité, et que l'on peut trouver beaucoup plus de choses dans les récits de philosophes grecs ou des récits anciens que dans une vision qui serait coupée du passé. Alors, pour revenir à notre propos sur l'hiérarchie, et en reprenant ce que disait Jacques Chirac, il est évident que là, on est sur un sujet qui est chaud, parce que l'extrême droite, on peut dire, ancienne, celle de Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Pen lui-même disait, une statue de marbre de grec a une valeur infiniment supérieure à un morceau de bois africain. Alors évidemment, l'exemple n'était pas innocent. Alors, on peut aussi comparer avec aussi aujourd'hui la fille qui dit « toutes les civilisations sont égales » et qui reprend les propos de Chirac et également. Alors, en fait, je pense qu'aucun des deux n'a raison, parce que c'est l'homme qui est unique et universel dans son égalité, donc ça c'est une pensée qui est celle de Descartes, et celle, on peut, comme je vous le disais, penser les philosophes et aussi des religions, de cette unicité de l'humain, et avec effectivement des civilisations qui reprennent les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes thèmes qui sont repris par les civilisations, mais dans des ordres différents. Et c'est là où intervient cette histoire de hiérarchie, parce qu'il y a des hiérarchies, simplement elles ne sont pas les mêmes pour chacun, c'est-à-dire que chacun voit les hiérarchies à son, midi à sa porte, et effectivement, de ce fait, il peut juger les autres de manière négativement. Par exemple, les civilisations, on peut dire qu'ils ne sont pas les civilisations du bâti et qui sont des civilisations, alors je n'aime pas trop ce trop près de la nature, mais on peut dire qu'ils ne transforment pas le territoire. Parce que y a, toutes les civilisations sont près de la nature et à la fois elles sont loin de la nature. Mais on sait, il y a celles qui ne transforment pas le territoire. Eh bien, y a, je pense qu'elles ont un certain ironie ou dédain par rapport à nos modes de vie qui sont des modes de vie compulsifs, d'enrichissement, de consommation, et qu'il y a une sagesse dans, que l'on retrouve d'ailleurs dans le monde paysan, aujourd'hui ou hier, et vision du monde paysan, le rat des villes et le rat des champs, et qui est une vision relative où on a des hiérarchies de valeurs qui ne sont pas les mêmes. Donc, il en est de même pour les civilisations, où évidemment, des fois, les choses sont cachées et beaucoup plus complexes à voir. Et nous développerons dans les prochaines chroniques, justement, cette relation des hiérarchies avec le rôle de l'architecture en tant que porteur symbolique dans les civilisations que j'avais appelées civilisation du temple, et le rôle de l'architecture qui n'est plus le porteur symbolique pour les civilisations que j'avais nommées civilisation du masque et qui sont, disons, des civilisations qui ne sont pas, qui ne transforment pas le territoire par rapport aux civilisations dont l'architecture est l'art en premier. Et les civilisations dites du masque, c'est l'oralité, le discours et la parole et les, toutes les constructions des mythes et de la littérature qui sont en premier. Donc effectivement, on a un système de valeurs inversées et donc évidemment que les hiérarchies existent. Et quand... si on reprend pour l'architecture le parallèle de Jean-Marie Le Pen entre le morceau de bois africain et la statue en marbre, il est évident que d'un côté, si on a le Parthénon, Versailles, les grandes pyramides ou les temples d'Angkor, toutes ces grandes civilisations, on ne peut pas dire que ces bâtiments qui demandent une... à la fois un génie constructeur, artistique, et aussi une économie extrêmement complexe pour les édifier, et de la même nature que une hutte en terre et en paille. Oui, c'est l'histoire du trois petits cochons, la maison de paille, la maison de bois et la maison de briques. Simplement, il s'agit de codes symboliques, et dans lesquels il y a des civilisations qui mettent tous leurs efforts dans cela, et il y a à l'envers les civilisations qui mettent l'effort sur d'autres formes artistiques. Et je finirai donc sur une question et sur une réflexion que je vous pose, c'est que, dans quelle société pensez-vous que nous sommes ? Sommes-nous dans la société où l'architecture est le premier des arts comme ça l'a pu l'être dans tout l'Occident jusqu'ici ? Ou est-ce que nous sommes dans une société où le récit est le plus important et l'architecture n'étant aujourd'hui que dans les rôles fonctionnels ? Bon, je pense que vous aurez compris quel est mon sentiment par rapport à cela. Eh bien, nous essaierons de continuer cette discussion la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention.